on va parler toute cette connaissance. Je crois que vous évoquez dans votre livre les sciences divines. Donc, vous citez donc il y a l'angélologie, la mystique, la théologie. Alors, mais vous ne parlez pas de l'eschatologie. Mais par contre, vous évoquez le jugement dernier. Et l'amour courtois est aussi un thème obsédant dans votre œuvre. Alors ma question c'est, est-ce que vous trouvez que cette époque manque un peu d'amour, ou en tout cas que l'amour se raréfie, comme Jésus le disait? Et donc, vivons-nous peut-être une période comme ça, eschatologique? Enfin, je ne sais pas si vous avez, vous, ce sentiment.
Alors c'est joli que vous fassiez la jonction entre l'eschatologie et l'amour courtois qu'on appelle la fine amour du XIIe siècle. C'est joli parce que je pense qu'on vit enfin une période, quand on dit apocalyptique ou eschatologique au sens banal du terme et non réel. En effet, je crois qu'on risque d'assister, et je ne veux pas faire un discours sinistre, mais lucide, je crois qu'on est en train d'assister, l'eschatologie, les fins dernières, à la fin de l'être humain digne. Ça va être l'homme qu'on dit, comme par hasard, augmenté. Moi, la première fois que j'avais entendu cette expression, mais j'avais éclaté de rire, parce que je ne savais pas ce que c'était, l'homme augmenté. Je me dis, bon, mais de même, on hausse les immeubles, on fait la tour de Babel, de même, on essaye d'augmenter cette pauvre carcasse humaine, et voilà.
Machine
humaine, c'est ça. L'eschatologie ou apocalyptique, si moi je suis hantée par l'eschatologie au sens les fins dernières et le jugement dernier, parce que je suis persuadée, en effet, qu'il y aura des comptes à rendre. On peut, alors c'est un proverbe qui dit ça, mon ami m'en avait parlé, il disait, je crois que c'est un proverbe arabe, je crois, mais peu importe, on peut tout acheter au bazar de la vie, mais à un moment, on vous présente l'addition. Et ça, j'en suis persuadée. Et puis quand on connaît les plus anciennes religions, enfin, aux civilisations comme celle de l'Égypte, en effet, à un moment, eh ben, voilà, il y a le miroir, il y a la balance, et vous êtes jugé sur vos actes, vos pensées ou vos non-actes, alors que vous auriez pu faire, etc. Ça me paraît tellement évident et clair. Voilà. Mais là, on veut refuser qu'il y ait, puisqu'il n'y a plus d'au-delà, on veut refuser qu'il y ait un jugement, donc il n'y a plus de morale, bien sûr, il n'y a plus de vertu, et donc je fais ce que je veux pour moi, et donc il n'y aura jamais, je suis impuni, je vis impunément, c'est-à-dire je ne vis pas du tout, je serai encore une fois voué au néant. Alors, par rapport à la fine amour, à l'amour courtois du XIIe siècle, notre époque, je pense, manque terriblement d'amour. C'est pour ça qu'elle ne cesse de parler de bienveillance, de solidarité, enfin tous ces substituts de l'amour, parce que l'amour n'a rien de doux et de mièvre et de gentil. L'amour est une force aussi tranchante, donc révélatrice, mais qui décape d'abord. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Thérèse d'Avila, et avant Thérèse d'Avila, la grande béguine Hedwig d'Anvers, qu'on appelle aussi Edwige d'Anvers en français, et qui disait en effet, l'amour est dur et inflexible comme l'enfer. L'amour ne fait pas de cadeaux. Donc de nos jours, on est dans les bons sentiments, et les bons sentiments, c'est peut-être une bonne conscience, mais ce n'est pas une conscience éveillée, et ce n'est pas l'amour. Comme la compassion dont on parle, ça vient du bouddhisme, la compassion dont on parle, c'est être gentil, hein, d'une façon générale. Je ne dis pas que le Dalai Lama en parle comme ça, mais la compassion, ben, je suis gentil. Maintenant, tous les hommes politiques, il y a quelque chose, ah, je compatis. Bon, pour moi, la compassion, c'est déchirant, pas autant que je puisse l'imaginer, la ressentir. La compassion, c'est Jésus sur la croix. Il n'y a pas, d'autre chose. Je suis déchirée de la douleur d'autrui. Qui peut se mettre à la place de l'autre et déchirer à la place d'autrui? C'est réservé à très peu, on est bien d'accord. Donc ça veut dire que le cœur, en effet, c'est plus ce cœur de pierre, c'est un cœur qui est déchiré, qui prend en lui toute l'humanité ou sur lui toutes les souffrances et les désespoirs humains. Et pour ça, moi, je fais bref, la compassion, c'est le Christ sur la croix. Si je ne me sens pas comme le Christ sur la croix, hein, faut quand même être sacrément orgueilleux et fou et arrogant pour dire ça. En effet, de la compassion, je ne connais rien. Et de l'amour, j'en sais si peu. Mais ça, c'était les propos des troubadours. Il disait, parmi les plus grands, Bernard de Ventadour, « Hélas, moi je croyais connaître l'amour », parce qu'il le chantait, il le disait magnifiquement bien, et j'en sais si peu. Voilà. Il faudrait comment toujours revenir être modeste et de dire « Mais qu'est-ce que je sais ?» Donc Socrate dit sur le plan de la sagesse ou du savoir qu'il ne sait rien à la fin de sa vie, et nous qui croyons être aimants, amoureux, follement passionnés, etc., ou aimant tous les hommes, et la solidarité, et les œuvres charitables, etc., non, nous sommes, ou c'est par égoïsme ou par conformisme, nous sommes très peu aimants. Nous sommes très peu aimants. Voilà pourquoi j'avais eu envie aussi d'écrire ou de réfléchir sur l'amitié. parce que l'amitié, en effet, rappelle qu'il s'agit d'aimer et non pas d'être amoureux. Être amoureux, c'est la portée de presque n'importe qui, on dirait, et puis ça passe, c'est capricieux. L'amitié veut quelque chose qui dure, qui se construit, qui s'approfondit, et l'amour aussi. Donc c'est une instance supérieure, l'amour, de toute façon. Je pense que cette soif d'aimer, de s'émerveiller, de trembler, de s'évanouir. Je me dis, mais non, les chevaliers courtois s'évanouissent à la vue du visage aimé. Et les femmes aussi, les dames courtoises, elles tremblent aussi devant l'apparition de leur bien-aimé. Voilà, on a perdu tout ça, mais c'est un appauvrissement terrible. Moi, vous savez, je circule sur pas mal de radios exprès pour ne pas être, en dehors de notre époque, loin de là. Et quand j'entends, donc je circule aussi sur des radios de jeunes, comme on dit, jeunes, adolescents, mais je suis terrifiée. Et c'est pas un jugement disant, je fais pas ma vieille tricentenaire qui dit les jeunes, ils sont affreux, c'est pas ça. Mais je me dis, quand je les entends parler, garçons et filles, ils ont peut-être 14 ans, 15 ans, la façon dont vocabulaire meuf étant le plus joli nom, quand je les entends parler de ce qu'ils croient être l'amour, les relations amoureuses, c'est-à-dire le sexe, pour eux, mais je me dis, mais les pauvres, à côté de quoi ils passent? Mais ils n'auront jamais ce frémissement, cet émerveillement, tous ces émois qui sont liés à la quête amoureuse, au déroulement d'une histoire d'amour, et pas simplement au début. C'est ça, c'est toute une éducation qui serait à faire, mais pas une éducation avec l'éducation nationale, etc. Mais lire les poètes et voir comme il est merveilleux, comme le mystère de l'autre est extraordinaire. Voilà. Donc ça, c'est important. Mais vous savez, c'est amusant parce que de nos jours, alors on nous a dit, les scientifiques, mais vous le savez mieux que moi, ils disent qu'on utilise combien, 10% de notre cerveau, c'est ça?
1%.
Ou 1%, mais on l'accepte ça, si on dit, je l'utilise, oui, peut-être, mais enfin, je suis par ailleurs tellement intelligent que bon. Mais on n'accepte pas, on n'imagine pas qu'on utilise aussi 1%, au moins d'1% de nos capacités, justement, à aimer et nos capacités spirituelles, c'est ça. Donc moi, je le dis toujours, je le rappelle toujours, l'être humain, largement, et à travers les siècles, vit largement au-dessous de ses moyens, sur le plan spirituel.
De sa grandeur.
Voilà.
Moi, je vois un peu comme un signe qui bouscule l'ordre établi, hein, dans vos livres qui ne sont pas formels, qui ne vont pas dans le sens du poil, etc. Et d'ailleurs, vous dites aussi, je vais citer une phrase, d'une certaine façon, l'homme croit avoir prise sur un dieu amour, et en aimant, il croit lui ressembler. Tandis que, du dieu lumière, il ne peut se saisir, ni même prétendre s'approcher, sans être ébloui, brûlé, autant dire sans disparaître.
Oui, c'est une réflexion que je me suis faite, et je pense que là, on est plus, en effet, pour les chrétiens, on est plus du côté orthodoxe, qui révère ou adore un dieu lumière, qui est le début de l'évangile de Jean, et qui honore, avant tout, révère aussi l'esprit. Alors que, moi, il me semble que l'Esprit Saint est le parent pauvre du catholicisme et du protestantisme. Il y a cela, et c'est joli, je le prends comme un compliment, que vous disiez en effet que je bouscule sans le vouloir l'ordre établi, parce qu'en effet, s'il y a inspiration de l'esprit, c'est le renversement, au besoin de la conversion, le renversement, le bouleversement, la conversion. C'est les marchands du temple, toutes leurs fausses denrées et leurs fausses nourritures dites spirituelles qui sont évacuées. Oui, mais j'aime bien aussi le terme de signe. C'est beau, parce qu'il y en a trop qui veulent être des monuments, alors qu'un signe, c'est furtif. Ça peut être clair, ça peut être passager, ça peut durer aussi, mais ça demande aussi que l'autre reçoive le signe, l'aperçoive, le perçoive et réponde au signe. Donc je trouve que c'est une très jolie définition, ces définitions il y a de ma démarche.
Alors pour terminer, donc, votre dernier livre, Le provisoire et l'éternel, c'est son titre. Alors, le provisoire, on en a discuté. Effectivement, l'ego, tout ce qui est fini, mortel, psychique, peut-être.
On y est, dans le provisoire.
Et par contre, l'éternel, plutôt l'esprit, l'infini, l'éternel, le pneumatique. Enfin, c'est, en tout cas, je pense qu'on peut résumer comme ça. Alors, cet autre en soi, si on évoque, par exemple, les dialogues avec l'ange, on peut dire que c'est l'étranger, en deux mots, l'étranger, voilà. Dieu en soi, l'extraterrestre même, parce que Dieu, on ne peut pas vraiment le définir, ça reste un mystère, notamment le mystère du Christ. Je parle de ça, oui, parce que vous avez écrit aussi un livre sur l'hospitalité, je pense.
Tout à fait.
L'autre en soi, voilà. Et donc, avez-vous répondu à cette question? Qui étiez-vous avant de naître?
Qui étiez-vous avant de naître? Mais ça, c'est la grande question, justement. Moi, j'aime bien, c'est l'histoire aussi, le zen, les koan zen. Quel était le visage de mes parents avant la naissance? Alors, qui étais-je? Alors, pas moi, l'individu qui vous répond aujourd'hui. Il me souvient, mais là, c'est de l'ordre de l'immémorial, que ce qu'on appelle l'âme, mon âme, vivait dans la plénitude et dans la lumière. Et là, c'est la distinction certainement entre les platoniciens et les chrétiens, puisque pour les chrétiens, autant que je sache, mais j'ai souvent questionné des prêtres et des pasteurs et qui m'ont pas plus ou moins répondu, c'est la fameuse, la préexistence de l'âme ou pas. Moi, je ressens, c'est pas quelque chose qu'on déduit, qu'on apprend, qui s'inculque. En effet, j'étais avant de naître. Ça, c'est quelque chose de... Et c'est ni une supériorité, ni de l'arrogance, mais c'est le sentiment profond, donc intime, intérieur, c'est j'étais bien avant de naître. Voilà. Mais là, après, ça fait des questions, des développements à n'en plus finir. Mais en effet, mais quiconque, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui ressentent ça, ça veut dire que je ne suis pas limitée ni identifiée à mon individu mortel, charnel, existentiel. C'est donc là, c'est une ouverture, une liberté extraordinaire. C'est une joie, d'où la nostalgie. À ce moment-là, l'âme a soif de retrouver cette plénitude.
Oui, d'ailleurs, les thèmes auxquels vous vous intéressez, finalement, on peut se dire, si on croit à la réincarnation, en tout cas, au fait que la vie soit une et éternelle, quelque part, voilà.
Mais oui, on revient. On revient et puis on continue à dire, voilà, je... Oui, alors là, ça peut être
Highlander.
C'est ce qu'on appelle... Oui, c'est ce que vous appelez les missions. La mission. Il y a quelque chose à faire passer. Et comme les humains, les mortels ont la tête dure et le cœur encore plus, donc il faut y aller soit au marteau-piqueur, soit avec la poésie, soit avec un sourire. Mais sans cesse, réveillez-vous, souvenez-vous d'où vous venez. Souvenez-vous d'où vous venez. Souvenez-vous de votre vocation magnifique qui ne se limite pas à cette terre, bien sûr.
Bien, merci beaucoup, Jacqueline Kaden. Alors, on va juste, pour donner envie à ceux qui écoutent cet audio, de lire votre dernier livre. Alors, je vais citer donc, un aphorisme. Vous dites « L'alternative offerte à chacun en cette vie », donc je l'avais dit en exergue, « mourir ou mûrir ». Et vous y répondez un peu plus tard en disant « une seule alternative, le ciel ou le siècle, l'espèce ou l'esprit ». Pour ça, c'est joli, voilà. Et une deuxième, une pensée assez juste. « Quand je n'aime pas, je juge, mais quand j'aime, je suis juste ». Alors, merci beaucoup pour tout.
Merci de tout cœur. Merci.